السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، البشير النذير الأمين. أما بعد، aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en cette journée du 13 Dhul-Qi'da, de l'an 1446 de l'égire du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, correspondant au 10 mai 2025, nous poursuivons cette préparation de foi, de cœur, d'âme pour le voyage de la vie, le pèlerinage, dans cette troisième assise, dans laquelle nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, des sagesses que renferme At-Talbiya, cette parole que prononce le pèlerin cheminant vers la Mecque. Mais avant, nous parlerons, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de Al-Ihram. Al-Ihram, la sacralisation, qui précède la talbiya. Hier, nous avons parlé de la valeur du miqat, le pluriel al-mawaqit, les points de départ géographiques à partir desquels le pèlerin commence les rites de la umra, de son pèlerinage. Lorsqu'il arrive au ihram, lorsqu'il arrive au miqat, le pèlerin va entrer dans un état de sacralisation que l'on appelle al-ihram. Le fait d'entrer en ihram depuis le miqat fait partie des rites pour le pèlerin accomplissant le hajj ou la umra. Et c'est quelque chose de particulier pour le pèlerinage. Et la réalité du ihram, c'est en fait l'intention d'entrer dans les rites. Lorsque tu passes par le miqat, tu as dans ton cœur, tu émets l'intention de démarrer cette noble adoration qu'est la umra, ou ton pèlerinage. Et il est recommandé, juste avant d'entrer en ihram, pour les hommes, de porter le vêtement propre à l'ihram. C'est même obligatoire de se dévêtir de tout vêtement épousant la forme du corps pour mettre à la place de cela le vêtement composé de deux étoffes de tissu, le manteau et le pagne, al-izar ou al-rida, de couleur blanche pour les hommes. Quant à la femme, elle devra porter le vêtement qu'elle porte habituellement à condition de respecter les règles vestimentaires de la femme musulmane dans l'islam. Le fait de porter al-ihram, le vêtement d'ihram, distingue l'adoration du hajj et de la umra des autres adorations. Car en effet, il n'y a de vêtement propre ou spécifique à une adoration que pour le hajj et la umra. À part ça, il n'y a pas de vêtement à porter spécifiquement pour une toute autre adoration. C'est donc quelque chose de particulier. Et ce vêtement spécifique qui pousse le pèlerin à se dévêtir lui fait un grand rappel qui n'est autre que le rappel de la mort. Car lorsque le musulman mourra, il sera dévêtu et on lui fera porter le vêtement blanc, le linceul, qui a une grande et forte ressemblance avec le vêtement d'ihram. Tout comme dans cette vie d'ici-bas, il s'est déshabillé. Dans sa mort, on le déshabillera. Tout comme dans cette vie d'ici-bas, il a porté le vêtement blanc pour aller vers Allah. Lorsqu'il mourra, on lui fera porter le vêtement blanc pour qu'il aille vers Allah dans l'au-delà, comparaître devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه وأن سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. Et le fait de se rappeler au moment d'entrer en état d'ihram, lorsque l'homme enlève ses vêtements habituels pour porter les vêtements d'ihram, il se rappellera par cela qu'un jour on lui fera porter des vêtements blancs et qu'il ira rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala avec une tenue différente de la tenue des habitants de ce bas monde. Subhanallah. C'est donc un grand rappel pour tout le monde de l'au-delà que de porter le vêtement d'ihram et d'entrer en état d'ihram, en état de sacralisation. Allah Azza wa Jal nous a révélé une sourate qui porte le nom Suratul Hajj. Et celui qui médite verra que cette sourate qui traite du sujet du Hajj commence par le rappel de l'au-delà justement. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum in zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les gens, faites preuve de crainte de votre Seigneur, de piété. Et sachez que le tremblement de l'heure est un événement immense. Au début de Suratul Hajj, Allah Azza wa Jal nous rappelle l'au-delà. De même que celui qui va au Hajj se rappelle l'au-delà, à travers le vêtement qu'il porte, à travers le fait de se réunir avec tous les pèlerins portant le même vêtement que lui, si bien qu'il n'est pas possible de distinguer le riche du pauvre, le grand du moins grand, le fort du faible, et ainsi de suite. Tous pareils, car tous serviteurs d'Allah, tous esclaves d'Allah, cheminant vers lui, subhanahu wa ta'ala. La mort et le fait de porter le linceul est une, en réalité, une fin qui indique un début, le début du retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, le fait de porter le vêtement d'ihram est un début dans ces rites du pèlerinage, un début de cheminement spirituel de foi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerin enlève ses vêtements, porte al-izar, al-rida, le panier, le manteau, et il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsqu'il vit cela avec son cœur, il vit ses sens, eh bien, il se rendra compte véritablement de la valeur de ce qu'il est en train de faire. Il ne sera pas distrait, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui entrent en ihram et, à peine entrés en ihram, au lieu de prononcer la talbiya, ils se mettent à rire, à plaisanter, ou alors même à s'endormir tout au long du voyage de Médine à la Mecque, du Miqat jusqu'à la Mecque, ils sont endormis et ne se réveillent que quand ils sont arrivés. Ce n'est pas correct. Il faut profiter de l'état d'ihram pour répéter cette talbiya, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui meurt en état d'ihram sera ressuscité yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, en train de prononcer la talbiya, subhanallah. Il est ressuscité et dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Que pensez-vous d'une personne qu'Allah a bien voulu ressusciter en lui faisant prononcer ces mots, si ce n'est qu'Allah va l'accueillir dans sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Le fait de vivre ces sens avec ton cœur augmente la foi et augmente le rappel du retour à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de penser à l'au-delà. Allah Azza wa Jal a dit « يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le jour où vous la verrez, le jour où vous verrez le tremblement de l'heure, toute femme enceinte mettra bas. Elle fera une fausse couche. Subhanallah, de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et tu verras les gens ivres, bien qu'ils ne le soient pas, mais c'est le châtiment de l'heure qui est terrible. Il se rappelle, avec son ihram, le retour à Allah, la rencontre d'Allah, les balances sur lesquelles on pèsera les actions, les feuillets sur lesquels sont inscrits les péchés ou les bonnes actions, le pont dressé au-dessus de l'enfer, l'entrée en enfer ou l'entrée au paradis. Subhanallah. Il se rappelle tout ça alors qu'il est en état d'ihram. Et ainsi, il augmente sa certitude vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la certitude fait partie des actions du cœur les plus fortes qui soient. Le compagnon Hanzala al-Asadi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Nakunu inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yudhakiruna bin nari wal jannah. » حتى كأنها رأي عين فإن لم يكن يرى الجنة والنار نعم pardon حنظلة رضي الله تعالى عنه dit nous sommes parfois en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle l'enfer et le paradis comme si on les voyait. Il dit puis quand on va qu'à nos occupations, on retourne à nos occupations, on est pris par la distraction, l'insouciance. Hanzala est allé se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cela. Et lui a dit, ô messager d'Allah, Hanzala est tombé dans l'hypocrisie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda pourquoi il dit ces propos. Hanzala, radiyallahu anhu, lui expliqua que lorsqu'il est en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait des rappels, il sent la foi augmenter, mais lorsqu'il retourne à ses occupations, eh bien, la foi baisse. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ô Hanzala, si vous étiez dans cet état-là, de foi intense, constamment, les anges descendraient sur terre vous serrer les mains. Mais ce n'est pas comme ça, oh Hanzala, mais plutôt, c'est des fois la foi monte et des fois la foi descend. C'est le sens du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il y a le rappel, la certitude augmente en Allah. Lorsque le rappel descend, la certitude diminue parce que la certitude est une base de la foi et la foi augmente et diminue. Eh bien, lorsque tu portes le vêtement d'ihram, lorsque tu es en situation de ihram, tu dois faire travailler tout ça de sorte à ce que ta certitude augmente, que ta foi augmente, car quand ta certitude augmente, les actes du cœur augmentent, et alors à ce moment-là, tu es dans une bonne situation. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, ce noble pieux prédécesseur disait لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. Si la certitude s'était installée dans le cœur comme il se doit, alors le cœur se serait envolé de joie, mais aussi de tristesse et de ressenti de manque vis-à-vis du paradis et de crainte vis-à-vis de l'enfer. Ainsi, le pèlerin qui accomplit son pèlerinage fait travailler cette certitude pendant qu'il est en état d'ihram, à tel point où son cœur s'illumine et il vit chaque instant, chaque moment, et est loin de cette distraction dans laquelle sont tombés beaucoup de pèlerins malheureusement, parce que les cœurs ne sont pas là, les cœurs sont dispersés. Ils entrent en état d'ihram comme s'il s'agissait de quelque chose de banal. Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, le noble compagnon, lorsqu'il entrait en état d'ihram, plus personne ne lui adressait la parole. Il changeait complètement. On ne lui parlait plus. Il était pleinement dévoué, pleinement concentré sur cette adoration. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de parler, de manger ou autre en état d'ihram. Non, c'est autorisé. Mais cela veut dire qu'il incombe de se préparer comme il se doit et de ne pas négliger la situation du cœur pendant le pèlerinage, pendant l'état d'ihram. Tu es entré en état d'ihram, maintenant tu dois prononcer cette lourde parole, At-talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Tu prononces cette parole qui est la devise du pèlerin et l'indice montrant que le pèlerinage ne sert qu'à manifester la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul ayant droit à l'adoration. C'est l'esprit, c'est l'âme du pèlerinage et c'est l'objectif principal et même de toutes les adorations à travers lesquelles on a voulu manifester notre reconnaissance de l'unicité d'Allah. J'aimerais que vous soyez concentrés, car ce point-là, beaucoup le négligent. Ça peut être par manque de connaissance. Combien sont ceux qui accomplissent le pèlerinage sans jamais en tirer profit? Et ça peut être aussi par insouciance. Il s'agira donc de quelqu'un qui a la connaissance nécessaire, mais dont le cœur est attaché à autre chose, préoccupé ou distrait par autre chose. Dans les deux cas, ça serait une lourde perte et une grande faillite. Il faut que vous compreniez, ô musulmans, ô musulmanes, que le pèlerinage sert à manifester l'unicité de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis « labbaik Allahumma labbaik », tu es en train de répondre à l'appel de ton Seigneur en lui disant « je réponds à ton appel volontairement, favorablement, avec amour. Ô Allah, je réponds à ton appel. » « labbaik la sharika lak », je réponds encore une fois à ton appel, tu n'as nul associé. C'est pour toi seul que je fais cette adoration. C'est ton agrément uniquement que je recherche à travers ce pèlerinage. C'est ce qui me fait répéter cette parole sans jamais me lasser. Labbaik, labbaik, labbaik. Je réponds. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma a décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré en état d'ihram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé haut et fort l'unicité d'Allah. Jabir radiyallahu anhu a dit fa ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bit tawhid labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a élevé sa voix, proclamant l'unicité d'Allah en disant « labbaik Allahumma labbaik » en prononçant donc la talbiya. La talbiya n'est pas une parole ordinaire. Elle est l'expression même de la reconnaissance que le serviteur ressent de l'unicité d'Allah. Tu es seul, ô Allah. C'est toi seul qui m'as accordé cette subsistance, qui m'a créé. Et c'est toi seul que je dois adorer à travers cette talbiya. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, par Allah, par Allah, par Allah. Si les musulmans comprenaient le sens de la talbiya, si les musulmans qui sont au pèlerinage comprenaient le sens des paroles qu'ils répètent, il n'y aurait plus aucune forme de shirk sur la terre. Il n'y aurait plus aucune forme d'association à Allah sur terre. Il n'y aurait plus de mécréance. Si tout le monde répétait la talbiya, il n'y aurait plus de shirk sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse répéter cette parole avec sa compréhension. La talbiya, l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wal mulabbi huwa al mustaslimu al munqadu li al munqadu lillah la li ghayrihi. » Celui qui prononce la talbiya, c'est celui qui est pleinement soumis à Allah et pas à autre que lui. Wal ma'na inna mujibuka li da'watika mustaslimuna li hikmatik muti'una li amrik marratan ba'da marra la nazalu ala dhalik. Et le sens de la talbiya, ça revient à dire « Oh Allah, nous répondons à ton invitation, soumis à ta sagesse, obéissant à tes ordres, plusieurs fois, encore, et nous cessons de rester dans cet état. » La réalité de la talbiya, pour le pèlerin qui accomplit le hajj et la umra lorsqu'il prononce ces mots, c'est le fait de répondre à Allah son Seigneur qui l'a invité. Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Ibrahim alayhi salam de passer l'appel, de dire aux gens qu'ils ont le devoir de venir faire le pèlerinage. Autrefois, Ibrahim alayhi salam était dans une terre désertique, Mecca. Il n'y avait rien à Mecca. Subhanallah, Allah Azza wa Jal lui dit par révélation, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ et passe l'appel aux gens, appelle les gens à venir accomplir le hajj. Ibrahim alayhi salam s'est étonné et a dit, mais qui va m'entendre? وَمَاذَا يَبْلُغُ صَوْتِ qu'est-ce que ma voix pourrait-elle atteindre? Il s'étonne parce qu'il est dans un désert. Et là on voit une sagesse, que des fois Allah nous donne des ordres sans nous informer de la raison de cet ordre. Et ce n'est pas une condition pour se soumettre à Allah de devoir connaître la raison de chacun de ses ordres. Loin de là. Allah Azza wa Jal ne dévoile pas à Ibrahim la sagesse. Il lui dit de faire passer l'appel. Il est dans le désert, il n'y a personne. Il se dit, mais qui va m'entendre? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Ils viendront à toi à pied et sur toute monture éprouvée. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. Ils viendront de toute contrée éloignée. On pourrait se dire, à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, qui est-ce qui va l'entendre? Et quel est l'intérêt qu'Ibrahim passe un appel? Allah Azza wa Jal informe que les gens vont répondre à son appel. Et comment est-ce que nous, on répond à l'appel d'Ibrahim? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, et dans le tafsir, on apprend que, dans le Coran, d'ailleurs, on apprend qu'Ibrahim a passé l'appel. Le fait qu'Allah nous informe qu'Ibrahim ait passé l'appel nous permet de répondre à cet appel en sachant que nous sommes en train d'y répondre. Donc, comme Allah a promis à Ibrahim, c'est ce qui s'est passé. Allah a dit, Ibrahim, passe l'appel, les gens te répondront. Allah nous a fait arriver cet appel avec sa révélation et nous voici à lui répondre. Et c'est pour ça que Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, un grand tabi'i, a dit, قام إبراهيم على مقامه فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. Ibrahim s'est tenu debout à l'endroit où il était et a dit « Oh les gens, Allah vous appelle au pèlerinage. Répondez à l'appel d'Allah, de votre Seigneur. » Et les gens se sont mis à dire « Labbaik Allahumma labbaik. » Quiconque accomplit le pèlerinage aujourd'hui répond à l'appel d'Ibrahim passé ce jour-là. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala explique ce verset où Allah Azza wa Jal a dit « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » et appelle les gens au pèlerinage. Et il nous dit « أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِهِ » c'est-à-dire « Fais-les savoir, fais-leur savoir qu'ils ont le devoir du pèlerinage. » « وَادْعُوهُمْ إِلَيْهِ » et appelle-les à ce pèlerinage. « وَبَلِّغْ دَانِيَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ » et fais passer cet appel et transmets-le à la personne proche tout comme à la personne éloignée. « فَرْضَهُ وَفَضِيلَتَهُ فَإِنَّكَ إِذَا دَعَوْتَهُمْ أَتَوْكَ حُجَّاجًا وَعُمَّارًا » car si tu fais passer cet appel, alors ils viendront à toi en accomplissant le hajj et la umrah. Il y a des sagesses à connaître derrière la talbiya. Parmi celles-ci, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a porté le vêtement d'ihram dans le pèlerinage qu'il a accompli, hajjatul wada', le pèlerinage d'adieu, lorsqu'il a voulu entrer en état d'ihram, il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, en prononçant une parole que beaucoup ignorent pendant l'état d'ihram ou avant d'entrer en état d'ihram. Il dit « Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a » « Oh Allah, fais de ce pèlerinage un pèlerinage à travers lequel on ne recherche ni l'ostentation ni la réputation. » Puis il a dit « Allahumma hajjatan » wa umra. Oh Allah, me voici pour accomplir le hajj et la umra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce noble hadith, nous enseigne l'importance de la sincérité dans le pèlerinage et la umra, et que le pèlerin doit renouveler son intention lorsqu'il va commencer les rites de cette grande adoration, tout en prenant garde à tout ce qui pourrait contredire, ternir, affaiblir ou même annuler son intention sincère envers Allah dans son cœur. Le pèlerin doit faire cela tout en implorant Allah Azza wa Jal de lui accorder at-tawfiq, la réussite, de lui donner son assistance pour l'aider à réussir, pour que ce pèlerinage soit exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » et complétez le hajj et la umrah pour Allah. Le Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » et accomplissez le pèlerinage et la umrah, remarquez ce qu'il dit « لِلَّه » pour Allah. Dans ce verset-là, il n'y a pas que l'ordre de faire le pèlerinage, mais il y a plus profond que cela, le fait de rendre ce pèlerinage sincère, exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sincérité, c'est la base de la réussite du cœur. Et l'importance de la sincérité, on la voit à travers plusieurs choses. Premièrement, la sincérité et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les deux conditions pour que tes actions soient acceptées. Une personne qui ne serait pas sincère ou qui aurait une défaillance dans le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, nul doute que son action serait défaillante et peut-être même non acceptée. Deuxièmement, les actions faites par les serviteurs sont différentes dans la récompense. Deux personnes peuvent faire le même pèlerinage et retrouver chez Allah une récompense tout à fait différente l'une de l'autre. Quelle est la chose qui change la récompense de ton hajj? C'est la sincérité que tu as dans ton cœur, la volonté de plaire à Allah que tu as dans ton cœur et son degré au moment de l'accomplissement de ton pèlerinage. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit « فَإِنَّ تَفَضُّلَ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ » La différence de ce qu'il y a dans les cœurs comme foi et sincérité, eh bien, c'est ce qui provoque la différence de la récompense de la personne. Il dit wa inna ar-rajulayni la yakunu maqamuhuma fi as-safi wahida. Tu peux trouver deux hommes dans un rang qui font la même prière. Wa bayna salatayhima kama bayna as-sama'i wal-ard. Et il y a entre leurs deux prières la même différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Subhanallah. La sincérité multiplie les récompenses des actions, même si l'action est minime. Des fois, tu vois quelqu'un faire une petite action, une petite, à nos yeux, à nous, les faibles serviteurs. Mais cette action, elle est grandie par Allah à cause de la forte sincérité qu'accompagne cette action. Et tu vois une personne qui fait une grande action à nos yeux, mais qui est petite chez Allah à cause de la faible sincérité de la personne. Allah Azza wa Jalla a dit « Wa in taku hasanatan yudha'ifha » Et si il y a une hasana, Allah la multiplie. L'imam Ibn Sa'di a dit « Ay ila ashrati amthaliha ila akthara min dhalik bihasabi haliha wa naf'iha wa hali sahibiha » ikhlasan wa mahabbatan wa kamalan. C'est-à-dire qu'Allah multiplie l'action par 10, voire même par plus que cela, en fonction de la situation de cette action, en fonction de son utilité, en fonction de la situation de la personne qui fait cette action, en termes de sincérité, d'amour. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. C'est une bonne action, n'est-ce pas? Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui, s'il ne boit pas ce verre d'eau, va mourir. Là, il y a une différence dans la situation de l'action qui augmente la récompense. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif avec comme sincérité sur une échelle de 100, 50. Tu as 50 en récompense, c'est-à-dire tu as ce qui est proportionnel à ta niya, à ton intention. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui est assoiffé avec 100% de sincérité, tu obtiens 100% de récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense d'une seule action proportionnellement à la situation de cette action, la manière dont elle est faite, et la sincérité de la personne qui l'accomplit. La sincérité, lorsque tu fais une action, peut tellement grandir et lui donner de la valeur au point d'être une cause pour qu'Allah te pardonne des péchés majeurs qui, à la base, nécessitent un repentir. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله به كبائر الذنوب. Une action, une des catégories des actions. Peut-être qu'une personne l'a fait d'une façon tellement sincère, tellement pleine de servitude pour Allah, qu'Allah au final va lui pardonner des grands péchés. Comme dans le récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour du jugement dernier, un homme de la communauté viendra avec des feuillets où ont été consignés ses péchés. Il y aura 99 feuillets. Chaque feuillet est aussi grand que la portée de la vue. Imagine-toi dans le désert, ouvre grand tes yeux dans le désert. Tu vois tout ce que ta vue peut atteindre? C'est la taille d'une feuille. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette feuille? Tout est péché. Combien de feuilles y a-t-il? 99. Un homme des musulmans arrive le jour dernier avec 99 feuilles de péché comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, est-ce que tu... Est-ce que tu remarques quelque chose où tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu as une remarque? Il répond, non au Seigneur, je n'ai rien à dire. Ce sont ses péchés, il les reconnaît. Allah n'est pas injuste. Alors Allah subhanahu wa, on lui présentera une carte sur laquelle est écrit la ilaha illallah, la parole qu'il avait prononcée dans ce bas monde, en respectant ses conditions. Et on fera venir la balance avec ces deux plateaux pour poser les péchés et les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla lui dira « Uhdur waznak » Ramène ta pesée. Il dira « Mais qu'est-ce que cette carte va faire devant ces 99 feuillets, oh Allah ?» Allah Tabaraka wa Ta'ala lui dira « Alors, aujourd'hui, tu as une hasana et tu ne seras pas lésé. Tu ne seras pas lésé ni opprimé. Alors, on placera les 99 feuillets de péché sur un plateau et on placera une carte où il a dit la ilaha illallah sur un plateau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةِ وَلَمْ يَثْقُلْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ. Et alors, on verra les 99 feuillets s'envoler dans le ciel. Et on verra la carte prendre tout le poids dans le plateau de la balance. Car rien ne peut être lourd devant le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que cet homme-là, avec sa sincérité dans la parole « La ilaha illallah », il va se faire pardonner 99 feuillets de péché à cause de sa sincérité. Subhanallah. Ibn Taymiyyah, rahimallah, continue et dit qu'il y avait une femme, dans le récit rapporté par Al-Bukhari, une femme des Banu Israël qui était prostituée, qui commettait la fornication à outrance, qu'Allah nous en préserve. Un jour, cette femme-là était assoiffée, elle est partie s'abreuver dans un puits. Puis, elle s'en est allée et en route, elle a aperçu un chien tellement assoiffé qu'il allaitait. Il allaitait, il léchait, sa langue pendait, il était essoufflé et il léchait la terre humide à la recherche de quelque chose à boire. Prise de pitié pour cet animal, elle s'est dit, je vais aller l'abreuver comme moi j'ai bu pour Allah. Elle a pris sa botte, elle est descendue, elle a ramassé un peu d'eau dans le puits, pour abreuver le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا. Allah lui a pardonné ses péchés. Il nous raconte aussi l'homme qui a enlevé une branche de la route des musulmans, afin qu'il ne soit pas gêné. Allah lui a pardonné. Ibn Taymiyyah, rahimallah, dit ensuite, فَهَذِهِ سَقَتِ الْكَلْبَ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ كَانَ فِي قَلْبِهَا فَغَفَرَ لَهَا وَإِلَّا فَلَيْسَ كُلُّ بَغِيٍ سَقَتْ كَلْبًا يَغْفِرُ لَهَا. Cette femme-là, cette prostituée, au moment d'abreuver le chien, elle avait dans son cœur une situation de foi et de sincérité telle qu'Allah lui a pardonné son péché. Sinon, toute femme prostituée abreuvant un chien ne va pas être pardonnée. Il dit « فَالْأَعْمَالُ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِجْلَالِ » Ainsi l'on comprend que les actions diffèrent dans le degré en fonction de ce qu'il y a dans les cœurs comme foi et vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit tout ça pour revenir sur le sujet du hajj. Ton pèlerinage, la récompense que tu vas avoir, est en fonction de tout ce que tu as dans ton cœur comme sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala. plus tu développes cela, plus ta récompense est grande. D'où l'importance de se préparer. Tu vas en vacances, tu te prépares. Tu vas faire une activité professionnelle, tu te prépares. Tu as un rendez-vous, tu te prépares. Tu vas au Hajj, tu ne te prépares pas. Quelle erreur! Mais si on approfondit la réflexion, eh bien, on se rendra compte qu'en réalité, les gens ne se préparent pas parce que déjà dans leur religiosité, il y a des failles. Dans leur foi, il y a des défaillances. Dans leur lien avec Allah, il y a un problème. Ils ne connaissent pas comme il se doit leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et leurs cœurs sont attachés à beaucoup d'occupations mondaines. Comment voulez-vous que de telles personnes puissent tirer profit comme il se doit du pèlerinage? Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de tirer profit comme il se doit de chaque adoration qui nous rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. La véracité dans le cœur apporte des fruits dans la vie du croyant, dans son comportement, parce qu'il se dit, je suis en train de dire « labbaik Allahumma labbaik », je suis donc en train de répondre à l'appel d'Allah. Si tu le fais sincèrement, eh bien tu te rappelleras qu'en réalité toute ta vie est une talbiya. Toute ta vie doit être une réponse à l'appel d'Allah. Tu dois te souvenir qu'Allah Azza wa Jalla a dit par exemple dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Oh vous qui avez eu la foi, répondez à l'appel d'Allah et du messager quand il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Vous voyez, tous les ordres d'Allah sont un appel d'Allah. Toutes tes applications des ordres d'Allah sont donc une talbiya. Pendant le pèlerinage, depuis que tu entres en état d'ihram jusqu'à la fin, tu chemines, tu passes d'un endroit à un autre en disant labbaik Allahumma labbaik, pour te rappeler que dans ta vie, tu chemines en allant vers Allah, en lui disant labbaik Allahumma labbaik, en priant, en jeûnant, en donnant la zakat, en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, tout cela est une talbiya. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit: Wa in qala mithla dhalik, thumma khalafahu bi'amalih, faqad kadhaba amaluhu qawlah, wa huwa jadirun an yujaba kama yujabu man hajja bimalin haram. وقال لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سعديك. Ibn Rajab rahimallah dit une parole terrifiante. Celui qui prononce ces paroles, la talbiya, puis contredit le sens de la talbiya. Tu dis la talbiya, لبيك اللهم لبيك, puis tu désobéis à Allah Azza wa Jal avec tes actions, alors en réalité, ton acte aura prouvé que ta parole est mensongère. Il dit, une telle personne est plus à même de ressembler à celui à qui l'on dira, il n'y a pas de labbaik pour toi. Et c'est celui qui dépense qui fait le hajj avec de l'argent haram. Celui-là, on sait dans les textes que quand il fait son pèlerinage, quand il dit labbaik Allahumma labbaik, alors qu'il a dépensé de l'argent haram pour faire le hajj, eh bien les anges lui répondent la labbaik wa la sa'daik, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de labbaik pour toi, il n'y a pas de joie pour toi. Ibn Rajab dit, il en est de même pour celui qui prononce la talbiya puis qui la contredit. Et on pourrait se faire une image. Vous allez vous imaginer un roi immensément riche qui passe un appel et qui dit: oh les gens, venez dans mon palais, j'ai beaucoup de choses à vous offrir et je vous y attends. Alors tu vois les gens lui dire: je suis là, je réponds. Et tu vois un d'entre les gens qui se dirige vers le palais et qui dit: oh toi le roi, je réponds à ton appel. Et au moment où il prononce ces mots, qu'est-ce qu'il fait? il désobéit au roi, il se moque de lui, il ne le respecte pas, mais il continue à dire « Je suis là, je réponds à ton appel ». Qu'est-ce que vous pensez de ce roi, de ce qu'il va faire de cette personne? Il va dire d'elle « Cette personne n'est pas sincère. Cette personne ne me prend pas au sérieux. Elle dit qu'elle répond à mon invitation tout en continuant à me manquer de respect. » Eh bien, si tu dis la talbiya, tout en continuant à manquer de respect à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un très grand problème. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Al-iman asasuhu al-sidq wa al-nifaqu asasuhu al-kadhib fala yajtami'u kadhibun wa iman illa wa ahaduhuma muharibun lil-akhar. » La foi a pour base, pour fondement, la véracité. Et l'hypocrisie a pour base et pour fondement le mensonge. Ainsi, le mensonge et la foi ne peuvent pas se réunir sans se faire la guerre. Soit tu es sincère, soit tu es mensonger. Les pieux prédécesseurs, subhanallah, étaient tellement sincères et tellement craintifs pour leurs actions qu'ils avaient des situations incroyables lorsqu'ils entraient en état d'ihram. Parmi eux, Ali ibn al-Hussein, l'arrière-petit-fils du prophète alayhi as-salatu wassalam. Il est rapporté de lui qu'il s'est mis en état d'ihram et lorsqu'il est entré en état d'ihram, il est devenu tout jaune. Il n'arrivait plus à parler. Il était bloqué. Il n'arrivait pas à dire « Labbaik Allahumma labbaik ». Je vous demande de bien écouter, je vais répéter du début. Ali ibn al-Hussein, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré en état d'ihram. Il a mis l'intention de commencer le rite au miqat. Puis, il n'arrivait plus à prononcer la talbiya. Et son visage est devenu tout jaune. Il n'arrivait même plus à parler. Quelqu'un autour de lui l'a regardé et lui a dit « Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi ne prononces-tu pas la talbiya? Qu'est-ce que tu as ?» Il dit « J'ai peur qu'on me réponde « La labbaik ou la sa'daik ». J'ai peur qu'on me dise « Il n'y a pas de talbiya pour toi. Il n'y a pas de joie pour toi. » Alors que c'était des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on dit « Labbaik Allahumma labbaik » avec un paquet de chips dans la main. Wallahi, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Ce n'est pas haram d'avoir un paquet de chips dans la main, soyez rassurés, quand on est en état d'ihram. Mais ce que je veux vous dire, et ce sur quoi j'essaie de vous sensibiliser, c'est que dans beaucoup de cas, on ne prend pas au sérieux cette question du pèlerinage. La question du pèlerinage est devenue du tourisme chez les gens. Et c'est ça qu'on essaie de combattre. On essaie de combattre et de ramener le pèlerinage à son origine. Parce qu'il y a tant d'années, les gens accomplissaient le pèlerinage comme il se doit. Je me souviens, il y a tant d'années, Amina, on dormait sur des pierres. Personne ne se plaignait. Dans les chambres, il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles, ni petit déjeuner, ni dîner, ni rien du tout. On était 6 dans les chambres. Il n'y avait pas de climatisation, il faisait chaud. Il n'y avait pas une personne qui se plaignait. Subhanallah et Rabbil Alamin. Plus, pas une personne qui se plaignait. Aujourd'hui, tout le confort est arrivé et le pèlerinage est devenu du tourisme. Et les gens se plaignent comme les touristes se plaignent lorsque les prestations pour lesquelles ils ont souscrit ne leur sont pas données comme il se doit. Mais où est ton cœur avec Allah dans ce pèlerinage? Il entre en état d'ihram, il devient tout jaune, il n'arrive plus à parler, on lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il répond « J'ai peur qu'on me dise pas de talbiya pour toi. J'ai peur qu'on me dise « Tu n'es pas accepté. » Et nous, qu'est-ce qu'on a comme crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi, le pèlerin, doit absolument se préparer son âme, préparer son cœur. C'est une faute de préparer ta valise, ton argent, et de ne pas préparer ton cœur. Faites bien attention à cela. Et parmi ce qui peut t'aider dans la valeur de la talbiya, C'est le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi ou an shimalihi min hajarin ou shajarin ou madarin hatta tanqati' al-ardu min hahuna wa hahuna. » Regardez la valeur de la talbiya. Lorsqu'on la connaît, lorsqu'on la vit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un musulman prononçant la talbiya sans qu'elle ne soit prononcée en même temps que lui, avec lui, par toute créature à sa droite, à sa gauche, comme pierre, comme arbre. » Tu prononces la talbiya ? Toutes les créatures autour de toi la prononcent. Toi, tu ne les entends pas. Mais ça fait partie de ta croyance, de ta conviction, parce que c'est un récit qui est authentique, de croire que quand tu prononces la talbiya, cette parole est tellement valeureuse chez Allah Azza wa Jal que les pierres qui sont à ta droite et à ta gauche, les arbres à ta droite et à ta gauche, les créatures qui t'entourent prononcent la talbiya avec toi. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h, إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.